meilleur cinéma, c'est celui où l'action est longue et les dialogues bref. Pour John Ford, tels sont les ingrédients pour parfaire un film. Bonjour, Alim, avec vous. Une heure de 7e art pour vous, comme chaque mercredi de 11h à midi. La première demi-heure, je suis en votre compagnie. Elle se compose de trois sélections des sorties de ce jour dans les salles obscures. Une pause musicale qui sera confiée à Indila, qui nous accordera une dernière danse avant une prochaine, bien sûr. Puis le portrait de la semaine. Il est consacré à Guillaume Canet, qui est à l'affiche aujourd'hui. Dans la prochaine fois, je viserai le cœur. Après le portrait, votre séquence, souvenez-vous, cette séquence qui vous plonge au cœur même des archives du cinéma. Un film sorti il y a 10, 20 ou 30 ans, voire plus, qui aura marqué des générations. Pour la seconde demi-heure, ce sera avec Béatrice Malige que vous la passerez pour un nouveau Ciné Plus. En attendant de la retrouver, vue à la radio, c'est parti. Le cinéma italien, il est le cinéma produit ou réalisé en Italie, cela va de soi. Il est également l'un des principaux cinémas nationaux de l'histoire du cinéma. Le cinéma italien commence quelques mois après les frères Lumière eurent créé le cinématographe, le 28 décembre 1895 à Paris. Ce sont eux qui l'introduisent en Italie au cours de l'année 1896. À la fin de l'année de l'après-guerre, ce sera l'un des cinémas nationaux les plus influents et reconnus au niveau mondial, avec des mouvements très forts comme celui du néo-réalisme. Le cinéma italien se déploie dans de nombreux sous-genres, dont le fameux western spaghetti ou le giallo. Souvent méprisé par la critique, le cinéma de genre italien a pourtant donné de véritables œuvres d'art et inspiré le reste du cinéma mondial. De très nombreuses coproductions franco-italiennes font que le cinéma italien croise souvent le chemin du cinéma français. Dans les années 2000 et 2010, c'est toujours un cinéma très actif et primé. Mais remontons un peu le temps, celui du néo-réalisme. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie connaît les conflits sur son territoire et destruction. C'est dans ce contexte que se développe le néo-réalisme, un mouvement artistique et culturel qui touche toutes les formes d'art et en particulier le cinéma. Le cinéma néo-réaliste représente la situation réelle du pays, la trame des films tournant souvent autour des vicissitudes des familles pauvres. Les acteurs sont fréquemment non professionnels et connaissent donc ce quotidien qu'ils jouent. Une attention particulière est portée à la langue, avec un recours fréquent aux dialectes régionaux. Pour ce qui est de l'image, les réalisateurs se proposent de ne pas truquer la réalité. Ils renoncent à l'illumination artificielle et aux prises de vue en studio. Comme Cinecittà était occupé par des réfugiés, les films furent souvent tournés à l'extérieur sur les routes dévastées du pays vaincu ou à la maison de parents et d'amis. Dans 4 pas dans les nuages de Alessandro Blasetti en 1942, c'est l'histoire d'un humble employé. Pour beaucoup, il est considéré comme le premier film néo-réaliste. La trilogie de Roberto Rossellini, Rome, ville ouverte, Paisa et Allemagne, année zéro, entre 1945 et 1948, décrit la fin du fascisme et les gens dans la guerre. La poésie et la cruauté de la vie sont harmonieusement combinées dans les films que Vittorio De Sica scénarise et réalise avec le scénariste Cesare Zavattini. Parmi ceux-là, Le voleur de bicyclette en 1948 et Miracle à Milan en 1950. On peut aussi citer Luchino Visconti, Giuseppe De Santi et Pietro Germi, enfin Federico Fellini, qui se forme autour de l'école néo-réaliste mais en même temps est à la recherche d'une dimension esthétique qui lui permette de la dépasser. L'époque néo-réaliste est aussi celle où l'on voit exploser des talents d'acteurs comme celui de Dana Magnani. À partir de la moitié des années 50, le cinéma italien commence à s'émanciper du néo-réalisme et affronte les thèmes de la vie d'un point de vue plus introspectif que descriptif. C'est un cinéma d'auteur marqué par le style personnel des réalisateurs, tout comme ceux que nous avons retenus pour vous dans la sélection de ce mercredi. « Première sélection retenue, il s'agit d'un film dramatique qui nous vient des États-Unis, réalisé par Michael Raskam avec Tom Hardy, Noomi Rapace et James Gandolfini. Ce nouveau long métrage s'intitule « Quand vient la nuit ». Bob Sajinowski, le barman solitaire, suit d'un regard désabusé le système de blanchiment d'argent basé sur les bars dépôts, appelé Money Drop, qui sévit dans les bas-fonds de Brooklyn. Avec son cousin et employeur Marv, Bob se trouve au centre d'un braquage qui tourne mal. Il est bientôt mêlé à une enquête qui va réveiller d'anciens drames enfouis du passé.
À Brooklyn, l'argent change de main toute la nuit. C'est carrément pas le genre qu'on peut déposer à la banque. Alors tout cet argent, il faut bien qu'il atterrisse quelque part. On appelle ça un bar de dépôt. Un bar que les gros bonnets choisissent au hasard, chaque soir, pour en faire le coffre de toute une ville.
Remplis le sac !
Vous vous rendez compte de la connerie que vous faites ?
Quelqu'un a braqué mon bar. Qui a braqué notre bar ?
On n'en sait rien.
Retrouvez mon putain d'argent.
Retrouver mon argent.
J'ai entendu dire que le bar appartient plus au cousin Marv, qu'il est à des truands maintenant. Et t'es pas un truand, toi?
Non, je fais que servir au bar. Tu crois que les gens ont ça sous le coude? Trouve mon fric et rendez-vous chez toi demain matin à 10h. Tu tentes un coup désespéré? Non, on ne pourra pas ce coup-ci se dépêtrer.
Je veux pas de toi ici.
Te frotte pas à lui.
Je déconne pas.
La vie est faite comme ça. Des mecs comme moi débarquent quand tu fais pas attention.
Passons à la seconde sélection de ce mercredi. Il s'agit de Serena, un thriller dramatique qui vient également des États-Unis, réalisé par Susan Bier avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper et Rice Ifan. À la fin des années 20, George et Serena Pemberton, jeunes mariés, s'installent dans les montagnes de Caroline du Nord, où ils sont décidés à faire fortune dans l'industrie du bois. Dans cette nature sauvage, Serena se montre rapidement l'égale de n'importe quel homme et règne d'une main de fer avec son mari sur leur empire. Lorsque Serena découvre le secret de George, alors qu'elle est elle-même frappée par le sort, leur couple passionné et impétueux se fissure, leur destin les entraîne vers la plus terrible des tragédies.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je voulais juste vous dire bonjour.
Bonjour.
George Pemberton.
Serena Shaw.
Je crois qu'on devrait se marier.
J'ai cru que je n'allais jamais te rencontrer. Ni jamais rencontrer qui que ce soit. C'est magnifique, George.
Ce n'est que le début. Tu as trouvé une femme ou une associée?
Les deux.
On a reçu une lettre de la banque.
J'ai bien peur que vos garanties ne soient plus suffisantes.
Il a pris les livres de compte.
Il peut nous détruire, George.
C'est toi qui iras en prison. Notre avenir, nos projets, nous allons tout perdre.
On s'était promis de toujours tout se dire.
Je voulais pas te faire peur.
Je ne suis pas ce genre de femme.
Oublions tout, nous pensons qu'à nous deux.
C'est ça pour nous, George. Pour notre avenir.
Mais de quoi parles-tu?
J'aimerais parler à votre femme. Il y a eu un meurtre cette nuit.
Il t'a trahi, George. Il n'a jamais été ton ami. Notre rencontre a marqué le début de notre amour. Rien de ce qui a pu se passer avant n'existe.
Voici des preuves pour m'emprisonner pendant des années.
Je t'aime follement. Je ne peux pas te perdre.
N'aie pas peur. Jamais.
Il fallait bien le faire. Pour nous.
Troisième et dernière sélection du jour, Favelas, film de Grande-Bretagne, réalisé par Stephen Daldry, avec Rickson Tevez, Wagner Moura et Gabriel Weinstein. Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais. Quand la police locale débarque, offrant une belle récompense en échange du portefeuille, Raphaël et Gardo réalisent l'importance l'importance de leur découverte. Une aventure extraordinaire commence alors pour nos deux jeunes héros. Flanqués de leur ami Rato, le trio décide de cacher le portefeuille et échapper à la police afin de découvrir quel secret il peut bien contenir.
Raconte-moi ton histoire.
Je m'appelle Raphaël. J'ai 14 ans. Je travaille à la décharge.
Si quelqu'un ouvre ce portefeuille, faut me le buter.
C'est ça ce qu'il cherche. Je sais ce que cette clé ouvre.
Partout où règne la corruption et l'injustice, il y a des dollars.
On fait quoi? Pour retrouver l'argent.
Des nouvelles des petits?
Ils sont sans doute déjà morts.
Démerde-toi pour faire raser cette décharge.
Pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses?
Parce que c'est juste.
C'est bon, on suit notre plan?
Ça va être la révolution!
Quand je vois tout ça, pourquoi ils se sont entêtés?
Parce que c'était juste.
Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. 91 MHz si vous êtes à Montpellier et son agglomération. 103.1 du côté de Nîmes et de son agglomération. On marque une pause, histoire de s'offrir une dernière danse avec Indila.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Indila, une dernière danse. Dans un peu moins d'un quart d'heure, vous serez en compagnie de Béatrice Malige pour un nouveau Ciné Plus. Tout de suite, le portrait de la semaine. Guillaume Canet, né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, il est acteur, réalisateur, producteur, scénariste, dialoguiste et entrepreneur français. Il est passé par une carrière au théâtre, puis à la télévision, avant d'arriver dans son domaine de prédilection, le cinéma. Arrivé devant la caméra, Guillaume Canet a joué dans de nombreux films à succès, comme La Plage en 2000, Jeux d'enfants en 2003 ou encore Joyeux Noël en 2005. Dès 1996, il se tourne vers l'écriture et la réalisation avec des courts-métrages, puis passe à la réalisation d'un long-métrage avec Mon Idole en 2002. En tant que réalisateur, il connaît la consécration avec Ne le dis à personne en 2006, pour lequel il remporte d'ailleurs le César de meilleur réalisateur en 2007. Aujourd'hui, il est à nouveau à l'affiche dans La prochaine fois, je viserai le cœur, film réalisé par Cédric Angers. À ses côtés, il y a Anna Girardot et Jean-Yves Berthelout. Alors, La prochaine fois, je viserai le cœur, nous plonge pendant plusieurs mois entre 1978 et 1979 dans l'Oise, où se trouve la ville est plongée dans l'angoisse, la terreur. Un maniaque sévit prenant pour cible des jeunes femmes. Après avoir tenté d'en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des autostoppeuses choisies au hasard. L'homme est partout et nulle part, échappant au piège des enquêteurs et au barrage. Il en réchappe d'autant plus facilement qu'il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoire au sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d'enquêter sur ses propres crimes jusqu'à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.
Vous savez qui c'est?
Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments.
Je comprends pas.
Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça.
Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Sophie me parle souvent de vous.
Ça dépend quand même de ce qu'elle vous dit sur moi.
Ah bah ça, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire.
Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un?
Non.
Attends, qu'est-ce que tu fais?
C'est ça, normal.
Attendez,
c'est toi. Ne crie pas. Ne regarde pas.
Pourquoi il tue comme ça?
Parce qu'il est fou. Ah!
Adaptation du livre Un assassin au-dessus de tout soupçon d'Ivan Stefanovic. Et si nous partions faire un tour du côté des archives du cinéma, ça vous dit? Votre séquence, souvenez-vous. Souvenez-vous, novembre 1960, Alfred Hitchcock réunissait devant son objectif Anthony Perkins, Janet Leigh ainsi que John Gavin. Une secrétaire de Phoenix vole 40 000 dollars au client de son employeur et se cache dans un motel dirigé par un jeune homme soumis à sa mère. Vous avez reconnu, bien sûr, Psychose.
Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact it has now become known as the scene of the crime. This motel also has as an adjunct an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside.
C'était Vu à la radio, votre magazine qui vous parle cinéma comme chaque mercredi de 11h à 11h30. Restez en notre compagnie, je cède le micro à notre chère Béatrice Malige pour un nouveau Ciné Plus et ce jusqu'à midi. Je vous dis à très vite pour de nouveaux programmes sur FM Plus. D'ici là, je vous laisse méditer sur cette citation de Jean-Luc Godard qui nous affirme que quand on va au cinéma, on lève la tête, quand on regarde la télé, on la baisse. Bonne séance à toutes et à tous. Bye bye. Thank you.